Ce soir, j'aimerais parler de ce premier fondement qu'est le corps. Nous cherchons à conscientiser ce corps, à le sentir, à le rencontrer pour pouvoir le lâcher. Et pourquoi? Parce que ce qu'il y a de meilleur à pouvoir rencontrer dans une expérience humaine, c'est ce geste-là, ce geste de lâcher prise. Et au fond, tous nos désirs, lorsque je veux saisir, avoir, c'est pour pouvoir vivre cette fin de tension. Je crois qu'en assouvissant mon désir, cette non-tension va se passer. Alors elle se passe, mais c'est très momentané et ça recommence toujours. À travers nos désirs, nos projections et nos exigences, au fond, ce que nous cherchons, c'est cette non-tension. J'ai plus besoin de faire ce geste-là. Mais c'est celui-là. Mais nous ne le savons pas. Et c'est ça, cette névrose humaine, où nous croyons que si les choses vont comme je veux, alors enfin j'y serai. C'est cette roue du samsara qui nous fait réagir à cette sensation de manque. Je manque de quelque chose et alors je m'accroche. Et ce qui est porteur de cet aveuglement, c'est le corps. Alors, comment s'en sortir? Comment arrêter d'être dupe et comment pouvoir accueillir l'instant avec une attitude de confiance, d'ouverture, de tranquillité. Une retraite, c'est fait pour ça. C'est fait pour voir comment, même si les conditions sont bonnes, en gros, on crève pas de faim, il n'y a personne qui nous agresse. Nous vivons ces up et down, ces saisons de l'âme. Comme il y a le jour et la nuit, il y a cette impermanence de la vie à l'intérieur et à l'extérieur, et ça ne va pas changer. Ça ne changera pas. Et ce n'est pas parce que nous méditons que ça va changer. Mais ce qui changera, c'est ce que nous en faisons. Comment est-ce que nous comprenons, dans le sens de vraiment comprendre, prendre avec cette impermanence de l'instant? Et tout commence dans le corps, parce que le corps est porteur de karma. Nous avons des mémoires anciennes qui font que nous ne sommes pas libres de réactivité. Ces mémoires anciennes sont bien plus profondes que celles que nous pouvons emmagasiner dans une vie. On voit bien comment les enfants, lorsqu'ils naissent, sont déjà porteurs de tendances qui leur appartiennent. Et de voir comment le corps vit cette impermanence. Comment Il a faim et puis il est rassasié. Il a sommeil et puis il est reposé. Il a peur et puis il est tranquille. Il résiste et puis il s'abandonne. Il est frustré et puis il est satisfait. De ressentir cette danse de la vie, c'est une manière de venir dans cette intimité de l'instant, dans ce chemin de connaissance. Je connais ce corps dans cette immense complexité. Nous croyons que c'est l'esprit qui est content, que c'est l'esprit qui a peur, que c'est l'esprit qui est en colère. Mais le contact est d'abord dans le corps. Je me souviens, j'ai déjà raconté cette histoire, peut-être certains ont déjà entendu, tant pis. Je me souviens, dans une retraite, j'allais explorer ma peur et puis je suis entrée dans une forêt pendant la nuit. Et puis j'avais peur, puis je trouvais bien parce que j'explorais ma peur. On m'avait dit qu'il fallait explorer ma peur. Et puis, à un moment donné, il y a eu vraiment des bruits étranges que je ne pouvais pas reconnaître. Et sans pouvoir nommer la peur, j'ai senti mon corps, quand on dit que les cheveux se dressent sur la tête ou que les poils se lèvent, j'ai senti tout mon corps qui était dans cet état de peur, sans que j'ai encore ni nommé la peur, ni eu aucune représentation. Il n'y avait rien qui me faisait avoir peur, si ce n'est quelque chose que je ne connaissais pas. Le premier fondement, ce corps, le Bouddha en a longuement parlé pour que nous apprenions à avoir une attitude à son égard, qui est une attitude respectueuse, mais non identifié. Mon corps comme un corps. J'aimerais prendre une fois de manière un peu plus précise les différents aspects de cette contemplation du corps. Tout d'abord, le corps tel qu'il est. Si je ne fais rien et que simplement je le laisse être, qu'est-ce qu'il vit, le corps? Et c'est d'abord le souffle. L'inspire, l'expire. Le Bouddha parle de cette contemplation d'une manière très claire parce que nous pouvons arriver à une totale compréhension de qui suis-je, juste à travers le souffle. Parce que le souffle, il est volontaire et involontaire. Il est intérieur et extérieur. Nous respirons tous les mêmes microbes et le même oxygène. Il est extension et contraction. C'est comme l'océan, la marée qui se contracte et qui se détend. Et le souffle a exactement ce mouvement-là. Il a un début et une fin. Nous pouvons sentir le début de la respiration et la fin de la respiration. Nous pouvons sentir le début de l'inspire, la fin de l'inspire, le début de l'expire, la fin de l'expire. C'est la vie. Notre vie a un début et elle aura une fin. Et le souffle est extrêmement profond dans son lien, non seulement aux activités physiques, mais à la vie émotionnelle. On peut avoir le souffle coupé par une émotion, ou le souffle s'accélère. se lier à cette respiration sans effort ni rigidité, mais avec aise, avec intérêt, avec bienveillance. C'est un ancrage très précieux parce que lorsque ce souffle est apaisé, c'est toute notre vie qui s'apaise. Et quand le souffle devient calme et détendu et profond, l'instant devient précieux. Il devient simple et bon. Nous pouvons employer cette conscience du souffle avant de prendre une décision ou lorsque nous devons parler à quelqu'un avant de parler. Je reviens dans cette intimité de la vie en moi. Et ça change comment je me lie au monde. C'est donc un ancrage précieux qui demande à explorer, se laisser être. Je laisse être ce souffle. Et quand je sais laisser être le souffle, je sais aussi laisser être tout ce qui est plus délicat au niveau émotionnel. Parce que l'attitude est là, cette attitude juste de non-intervention, de confiance. Ah ouais, ça inspire, ça expire. C'est le premier aspect du corps dont le Bouddha parle dans le Satipatthana Sutta, le sutta de base pour la contemplation. Sati veut dire présence et patana proche. Ça veut dire que nous mettons la présence proche. Nous entrons dans cette intimité. Le deuxième aspect, ce sont les quatre postures du corps. Nous pouvons contempler ce corps un peu comme une marionnette et voir quand la marionnette est debout, quand elle est assise, quand elle marche, quand elle est couchée. Ce que je vous ai un peu proposé de faire aujourd'hui, voilà juste maintenant, ce corps, il est assis. Et nous pouvons le sentir comme juste cette posture. Nous avons posé la marionnette dans cette posture-là. Et pourquoi est-ce une aide de conscientiser les postures du corps? C'est parce que la conscience ne s'identifie plus, ne s'approprie plus le corps comme étant à moi. Elle contemple le corps dans la posture qui est la sienne. Ça crée donc en même temps cette intimité, parce que je suis vraiment avec le corps, et cette conscience qui contemple sans être identifiée, sans s'approprier. Le troisième aspect, qui est un aspect essentiel, c'est la présence à tous les actes quotidiens. Dans le sutta, le Bouddha dit, il sait quand il regarde de près ou quand il regarde de loin, quand il se penche, quand il se redresse, quand il s'habille, quand il lave son bol, quand il mange, quand il boit, quand il goûte la nourriture, quand il défèque, quand il urine, quand il s'endort, quand il se réveille, quand il parle et quand il est en silence. Conscience de la parole, conscience du silence. C'est cette constance de présence que nous pouvons établir et qui permet une compréhension plus profonde de qui suis-je. Nous pouvons le développer en employant la pensée pour nommer ce que nous faisons. Chaque chose que nous faisons, nous commentons consciemment, c'est tout à fait autre chose de commenter en ayant choisi tout ce que je fais que de laisser les commentaires sauvages se passer sans cesse. C'est la méthode de Bhante Bodhidharma de Mahasi Sayadaw. Nous nommons chaque chose que nous faisons. Si je fais ce geste, je fais ce geste. Si je fais celui-là, je le nomme comme ça, au quotidien. Le quatrième aspect, le Bouddha parle de se lier aux parties du corps auxquelles nous n'aurions pas idée de nous identifier. Nous n'avons pas idée de nous identifier à nos ongles ou à nos os, encore que si on en met des artificiels peut-être, ou si on les laisse bien pousser, j'ai dit, ou à nos tendons, nos muscles, notre peau, notre squelette. Il est très clair aussi, il parle de se contempler, contempler le corps comme si nous ouvrions un sac et dans ce sac nous voyons toutes les graines, qu'il y a des graines de millet, d'orge. Nous contemplons le corps en voyant les cheveux, les poils, je vous dis ce qu'il y a dans le sutta parce que je trouve intéressant, les cheveux, les poils, les ongles, les dents, la peau, la chair, les tendons, les muscles, les os, la moelle, les reins, le cœur, les poumons, l'estomac, l'intestin, la bile, le pus, le sang, les larmes, la moque, le gras, la sueur, l'urine. Et c'est vrai que sans une seule de ces choses que je viens de nommer, il n'y a pas de corps. Le corps est fait de tout ça. Et le fait de réfléchir à ce qui suis-je dans cet aspect-là développe l'équanimité. Nous sommes moins dans cette préférence. Le corps est accepté tel qu'il est. Il prend sa place non seulement dans l'aspect extérieur, celui que je vois dans mon miroir, ou celui que j'aimerais qu'il soit et qui n'est pas tout à fait comme j'aimerais, mais dans ce qu'il est. Le cinquième aspect, c'est de voir le corps dans les quatre éléments. Nous sommes formés d'eau. Et l'eau, c'est ce qui va partout. C'est partout dans le corps. Ça crée la cohésion ou le lien. Nous sommes faits de feu. Nous pouvons sentir la chaleur du corps, la température. Nous sommes faits de terre, dans tout ce qui est solide. Quand je sens mes fesses sur le coussin, ah, ça c'est l'élément terre. Quand je sens la colonne bien droite, c'est l'élément terre. Et nous sommes faits de gaz. C'est ce qui se dilate. L'air que j'inspire est partout. Il entre là, il ressort, il va partout, chez chacun d'entre nous. Alors encore une fois, pourquoi réfléchir sur le fait que nous sommes ces quatre éléments? C'est de nouveau pour permettre à la conscience, ou plutôt à la pensée, c'est une transformation de la pensée. La pensée devient sage. Elle considère le moi comme faisant partie, pas comme une entité séparée du reste. Et ça permet peu à peu un lâcher prise de cette identification instinctive. Et le dernier aspect, c'est l'aspect de la dissolution, de la mort. Et le Bouddha parle beaucoup de cette contemplation de la mort. Parce que la mort du corps physique, c'est la présence de la conscience universelle. Et de simplement visualiser, ok, une fois je serai morte. Morte, je serai couchée, toute blanche, toute froide. Et puis après, il se passera quoi? Et il est très clair dans le sutta. Hein? Et bien après, ça commence à se pourrir. La chair, elle part un peu des os, ça se décompose. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? On peut être mangé par les corbeaux. Ou par les vers, si on est enterré, ou si on est brûlé, ben on est déjà là, on passe un peu plus vite directement à l'état de poussière. Et puis une fois, ben nos os deviennent vraiment, nous sommes vraiment à l'état minéral. Nous devenons ce qui est minéral. Ça n'est pas du tout une réflexion macabre. Au contraire, c'est une réflexion qui permet de sentir le corps vivant, mais sans être dupe. Nous pouvons vraiment vivre l'instant tel qu'il est, sans croire que nous sommes éternels. Et l'appréciation de l'instant avec contentement, non pas avec toujours cette demande qu'il soit comme je veux, se développe à travers cette réflexion. Le corps est ce qui porte l'aveuglement. Mais c'est aussi ce qui se transforme le plus en profondeur et qui permet de lâcher. Parce que c'est le corps qui n'a plus cet instinct de survie, d'agressivité, de réponse du berger à la bergère. Le deuxième fondement, ce sont ces ressentis qui sont des ressentis corporels. Il y a des ressentis agréables, des ressentis désagréables et des ressentis neutres. Et ces ressentis impliquent, lorsque c'est agréable, un élan vers, là je veux. Lorsque c'est désagréable, un élan contre, ça je veux pas. Et lorsque c'est neutre, de l'indifférence. Dans l'exercice de la méditation, nous pouvons vraiment sentir et nommer. Je ne sais pas comment c'est pour vous juste maintenant. Ça va des fois vite. Hein? Il y a un truc agréable, un truc désagréable, un truc agréable, un truc neutre. Ah ouais, agréable. Et quand c'est agréable, oup. Et quand c'est désagréable, oup. Avant qu'il y ait une représentation. La représentation, c'est cette, on l'a vu un tout petit peu hier, c'est cette, ou ce matin, je ne sais plus, c'est cette matrice de souvenirs qui conditionne nos ressentis. Des fois, je me dis, mais comment il peut trouver ça agréable, hein, quand certains vont voir des films d'horreur, ou bien, juste maintenant, ça ne vient pas, peu importe. C'est des fois étonnant de voir comment certaines personnes apprécient des choses que nous n'apprécions pas du tout. Et lorsqu'il y a la représentation, vient le j'aime, je n'aime pas, le je veux, je ne veux pas. Il n'y a pas seulement l'élan, mais il y a encore cette tendance à obtenir, à garder ou à ne pas avoir à rejeter. Je n'aime pas, je ne veux pas. Et quand c'est neutre et indifférent, il ne se passe rien, mais nous ne sommes pas conscients non plus. C'est pour ça qu'en général, la souffrance est un bon aiguillon pour apprendre à voir. Parce que quand c'est neutre, voilà, c'est neutre, c'est un peu opaque, la conscience est un peu opaque. Lorsque c'est bon, souvent nous sommes tellement contents de la bonne, du bon karma qui est le nôtre, que nous le vivons, nous en profitons, mais la conscience n'est souvent pas éveillée, je ne fais qu'en profiter. Mais quand c'est difficile, quand c'est douloureux, alors la conscience s'éveille et elle veut bien voir. Donc dans ce sens-là, la souffrance est précieuse. Et cette description de l'expérience, c'est comme ça que se crée l'expérience. Le corps ressent quelque chose, bien sûr il est en contact avec l'extérieur ou avec des souvenirs. Il ressent quelque chose, il est en contact, il ressent quelque chose et il sait ce qu'il ressent. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas changer. C'est impossible à changer. Parce que ce sont des conséquences karmiques, des conséquences de causes que nous avons mis en place avant et qui sont, c'est le réel de la vie, que ce soit dans l'instant, juste maintenant, ou bien dans notre histoire. Et ce qu'il est possible, c'est de voir. Et de dire, oui, je suis touchée. Mais vouloir changer, c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Il aurait fallu, j'aurais dû, si seulement, c'est trop injuste. Ça vient, ces choses. Et la première chose, c'est de vraiment reconnaître lorsque cela vient, que c'est OK, coucou. Mais je suis dans l'aveuglement. Je suis dans le contrôle, la manipulation. Je donne trop d'importance à l'expérience et pas suffisamment d'importance à cette responsabilité qui fait que si je suis blessée, ok, mais c'est bien que je l'ai laissé me blesser. J'ai laissé la vie me blesser. Il y a une seule responsable, c'est moi. Comment est-ce que je peux faire pour solidifier cette fragilité karmique qui fait que je laisse l'autre me blesser et que du coup, je crée pour cette personne du mauvais karma? S'il ne peut pas me blesser, même s'il m'agresse, il n'y a pas de karma pour lui. C'est pour ça que le Bouddha dit dans... Je ne sais plus où c'est qu'il dit ça. C'est pire de répondre à la haine par la haine que de haïr en premier. Celui qui répond à la haine perd son propre karma et celui de l'autre. Mais celui qui sait ne pas répondre à la haine par la haine sauve sa vie et celle de l'autre. Nous ne sommes pas dans cette loi de cause à effet. Lorsque nous pouvons rester totalement en paix quand l'autre vient avec ses flèches. Donc ce qu'il est possible de faire, c'est de dire, mais oui, c'est vrai, je suis touchée, je suis blessée. Et c'est comment? C'est comment? et je fais œuvre de connaissance dans le corps. Je viens voir à quel endroit c'est touché. Je respire à l'intérieur. Je reste en silence et en compassion. Et lorsque nous faisons ça, nous prenons appui sur la souffrance pour grandir. Au lieu de laisser la souffrance nous submerger et nous faire du mal, nous prenons appui sur la souffrance pour comprendre. C'est ça le chemin de purification. Le Bouddha a fait une différence entre deux désirs. L'un qui s'appelle Tanha, c'est ce désir du monde pour obtenir ce que je veux, qui implique lorsqu'il y a souffrance que je viens beaucoup dans le jugement, dans la faute, que ce soit ma faute ou sa faute, dans tout notre système de défense, dans le doute ou le désespoir. C'est la deuxième vérité, la cause de la souffrance. Il y a une blessure et je ne la veux pas. C'est important de vraiment reconnaître lorsqu'il y a cette résistance, avec tranquillité, parce que ça change. Je n'ai pas besoin de faire changer, ça va changer tout seul. Lorsque nous... L'autre qualité dont le Bouddha parle, Chanda, c'est ce désir de libération. Et plutôt que la question soit comment je peux faire pour que ma vie me donne ce que je veux, me dire comment est-ce que je peux maintenant bien employer l'expérience pour être heureuse. Maintenant. Pour être heureuse, ou en tout cas pour être contente, pour comprendre qu'il n'y a pas une erreur quelque part, pour arrêter de vouloir le bonheur à la mauvaise place. Et quand je questionne comment c'est, l'instinct qui fait que je mets, que je donne le pouvoir à l'extérieur se transforme, il y a ce retournement qui fait que je prends mon propre pouvoir, comme on sait dans le corps. Le corps est là porteur du chemin de libération. Ce qui aide aussi à faire ce retournement et à mettre ce corps en priorité plutôt que la pensée, c'est comprendre la première vérité. Nous en reparlerons, ce qu'on appelle dukkha. La vie est souffrance. C'est pas simplement qu'elle soit souffrance, elle est parfois souffrance, mais elle est changeante. Il ne peut pas y avoir un bonheur durable sur cette terre. Ça n'est pas, nous ne sommes pas constitués pour pouvoir s'arrêter et puis être heureux tout le temps. D'abord, si on était heureux tout le temps, on serait plus heureux. Ça pourrait durer un moment. Mais après, nous nous lassons, nous avons besoin de changement. C'est la nature humaine qui est comme ça. Donc, quelquefois, oui, il y a souffrance. Et ça n'est pas un problème. Ça n'est pas un problème. Le gros problème, c'est que je ne veux pas la souffrance. Ça, c'est un gros problème. Parce que lorsque je veux arrêter de souffrir, je ne vois pas comment je suis en train de créer ma souffrance. Alors que lorsque je vois, lorsque je m'ouvre, oui, c'est vrai, juste maintenant, il y a dukkha. Impermanence n'était pas là avant, c'est là maintenant. Confusion, il y a toujours confusion quand une émotion émerge. Mais je dis moi quand je vais bien, je dis moi quand je vais pas bien, je dis moi quand il n'y a rien de spécial, je dis moi quand je mange, je dis moi quand je parle, quand j'enseigne. C'est qui moi? Et alors cette identification au moi qui souffre et qui nous mène dans le désespoir, ça lâche peu à peu. Je vois que je peux me désengager. Que si je peux comprendre Dukkha, oui c'est vrai, je ne prétends pas, je ne fuis pas, je ne mets rien à la place, je ne prétends pas, oui c'est vrai, je souffre, ça fait mal, juste maintenant ça fait franchement mal. Comment c'est? Là je suis en chemin. Et c'est un merveilleux chemin. Je me souviens une fois, il y avait mes petits-enfants qui me mettaient, mais à l'étroit, mais horrible. Ils me dansaient sur le beat, je ne savais plus comment arriver à gérer. Ils sont trois, à peu près du même âge. Ils prenaient le pouvoir, ils jouissaient de prendre le pouvoir. Puis à un moment donné, je suis sortie de la chambre, j'ai claqué la porte, je suis allée me sortir sur mon lit. Dans ma chambre, puis je me suis. La pensée qui est venue, c'est: mais qu'est-ce que tu leur enseignes? Ah ben, je leur enseigne d'aller dans le corps. Alors, je suis allée dans le corps. Et c'était rapide. Ah! Ah ouais, c'est là, c'est tendu là, c'est tendu là. Et immédiatement, tout s'est remis en place. Au lieu qu'il y ait cette confusion, cette identification au moi, qui a fait faux, qui culpabilise, qui juge ses sales gamins, qui... C'était fini. Ça ne voulait pas dire que les choses étaient parfaites. Les choses n'étaient pas parfaites. Mais elles n'ont pas à être parfaites. Donc nous pouvons trouver ce bonheur ou ce contentement maintenant, cet intérêt pour l'expérience, au cœur de la souffrance. La libération n'est pas à côté, elle est à l'intérieur de la souffrance, ici et maintenant. Quand j'ai mal, ah ouais, ok, et j'ai des outils, impermanence, non-moi, dukkha, je ne suis pas toute seule. Et ainsi, nous commençons à rencontrer toute la vie et ne pas rencontrer qu'une demi-vie. Ne plus vivre notre vie par procuration, beaucoup au niveau conceptuel. Mais trouver ce silence intérieur où la vie est simple. Elle se déroule tranquillement. Au lieu que nous y soyons identifiés, nous la contemplons avec un brin d'humour. De la compassion, de la joie. C'est quand même bonheur d'être en vie, non? C'est pas mal quand même. Mais c'est peut-être aussi bien d'être mort, on ne sait pas. C'est le chat, j'aime bien l'histoire Gellu, j'aime bien le chat qui dit « Ouais, quand on est mort, on doit être content parce qu'on ne sera plus jamais triste. Mais on doit être triste parce qu'on ne sera plus jamais content. » Donc avec la méditation, nous apprenons à être à l'écoute avec bonté de la vie qui s'écoule en nous. Et lorsque nous faisons ça à l'intérieur de nous-mêmes, lorsque nous fortifions la conscience pour recevoir l'expérience, aussi l'expérience douloureuse, sans trembler intérieurement, sans croire que c'est faux, sans croire que j'aurais dû. Que... Alors, je peux aussi le faire pour l'autre. Je peux aussi recevoir l'autre sans être submergé, me laisser toucher et simplement être là. J'aimerais vous lire le début du un bout du Satipatthana Sutta. Juste pour se lier au texte et puis ce sont des choses, si vous entrez dans ce chemin, ce sont des choses qu'on entend encore et encore. Nous n'avons pas besoin de le comprendre intellectuellement. Nous avons besoin de nous laisser toucher par ce qui fait sens. Et puis, au fond, ce sont des paroles de vérité qui deviennent vérité parce que je les intègre, parce que je les incarne, parce que je les vérifie. Donc ne croyez rien, mais ouvrez juste vos oreilles et laissez-vous toucher par ce qui touche et lâchez le reste. Et surtout, ne vous tendez pas pour vraiment comprendre. À quelque part, vous comprenez. Donc, le Bouddha dit Bhikkhu. Bhikkhu, ce sont les moines. Bhikkhu, voilà le chemin direct pour la purification des êtres, pour surmonter les pleurs et les lamentations, pour la disparition de la douleur physique et de la détresse mentale, pour la réalisation du chemin de vérité, du nirvana. Ce chemin direct, c'est la contemplation des quatre fondements de la présence. Quels sont ces quatre fondements? Ici et maintenant, Bhikkhu, le disciple contemple son corps comme un corps, alerte, pleinement conscient et présent, ayant lâché le désir et l'aversion, l'attachement et la réaction. La conscience « il y a un corps » est établie, indépendante, ne s'attachant à rien au monde. Le deuxième fondement, ce sont les ressentis, que nous verrons plus tard. Le troisième fondement, c'est l'esprit. Et le quatrième fondement, c'est le lâcher prise des outils spirituels. C'est le lâcher prise c'est le nirvana. Mais j'aimerais commenter un peu le début, quand le Bouddha dit « voilà le chemin direct pour la purification des êtres ». Lorsque je laisse être la douleur physique, par exemple, ou la douleur psychique, et que je m'y intéresse avec cette qualité bienveillante et sans préférence. C'est l'instant, donc il est bon. Il est bon à contempler. Il n'est pas bon pour le moi. Quand c'est désagréable, le moi n'aime pas, on ne demande pas au moi d'aimer. Mais on demande au moi d'être suffisamment tranquille pour se taire, et puis permettre la contemplation de l'expérience ici et maintenant. Et ça, c'est le chemin de purification. Parce que ça apaise ou ça transforme le karma passé. Pour surmonter les pleurs et les lamentations, lorsque nous nous désolons de notre expérience ou de celle d'un autre, c'est que nous n'avons pas compris la valeur de dukkha. L'expérience de souffrance est indispensable à la progression spirituelle. C'est parce que nous acceptons d'aller voir ce qui fait mal que la conscience voit plus clair. Et je suis vérifiée toujours plus profondément. Je vais voir quelque chose plus profondément. Et la conscience remonte dans plus de clarté. C'est un approfondissement du qui suis-je qui fait que peu à peu, peu importe l'expérience, l'accueil, la qualité d'accueil est toujours équanime, ouverte et compassionnée. Et alors il n'y a plus lieu de se lamenter et de pleurer. La disparition de la douleur physique. Elle est un sacré défi, la douleur physique, parce qu'elle use. Un moment ça va, mais quand ça use, quand c'est là longtemps, ça devient pénible. Et pourtant, regardez la différence si vous vous détendez avec la douleur physique ou si vous vous tendez et que vous vous crispez et que vous ne voulez pas. Essayez de voir la différence. Comment c'est possible de nous ouvrir à cette douleur physique sans rajouter la douleur psychique. Nous pouvons nous intéresser à la douleur physique en allant à l'intérieur et en essayant de sentir, en questionnant comment c'est, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid, est-ce que c'est vibrant ou plutôt piquant ou... La détresse mentale, elle disparaît parce que nous faisons confiance à l'instant. Et au lieu d'avoir peur, d'être angoissé, nous sommes prêts. Je suis prête à vivre l'expérience telle qu'elle est. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ah ben maintenant il y a du contentement. Ah ben chouette, je suis contente. Maintenant il y a de l'inquiétude. Ok. Ah, c'est comment? Bien sûr nous voulons être libérés de l'inquiétude. Mais nous comprenons que c'est par cette rencontre avec ces énergies de l'ombre que le lâcher prise se passe. Et que c'est une grâce, ça n'est pas moi qui décide de lâcher prise. Ça lâche prise parce que j'ai fait ce travail de rencontre, d'acceptation et d'ouverture. La réalisation du chemin de vérité. La réalisation, c'est ce qui ne peut plus jamais nous être enlevé. Nous sommes là pour réaliser, non pas pour croire ou pour espérer, mais pour faire ce travail de fourmi, de présence, de constance de présence, d'être. Et alors, nous réalisons la vérité. Nous perdons cet espoir fou que la vie va pouvoir nous donner ou va pouvoir être à la hauteur de ce que nous cherchons vraiment. Ce que nous cherchons vraiment est au-delà du bien et du mal. Il inclut le bien et le mal. Et le nirvana, c'est l'éveil ou la libération, la délivrance de l'aveuglement. Et l'aveuglement, c'est l'attachement et l'aversion. Cette everlasting, comment dire, éternelle habitude que nous avons de vouloir et de rejeter. Et quand je veux et que je rejette, je ne peux pas être là. Si je suis là, c'est que je suis là. C'est que l'instant est respecté, qu'il est valorisé. C'est Woody Allen qui dit « C'est fou ce que je serais heureux si j'étais heureux. » Nous faisons ça souvent. Le bonheur, il est là. Mais ce n'est pas un bonheur qui est conditionné. C'est le bonheur de cette simplicité d'être. Et il peut y avoir un bonheur dans... lorsque je sais que je suis en chemin. J'y suis pas. Je sais bien que j'y suis pas. Juste maintenant, j'y suis pas. On ne peut pas dire que j'y suis. Hein. Franchement, là, le corps est tendu. Au niveau émotionnel, c'est n'importe quoi. Et complètement confus. On ne peut vraiment pas dire que j'y suis. Au fond, je suis complètement perdue. Mais je le sais. Et j'y suis. Je finis avec une petite parole, je crois que c'était Phyllis, avec qui j'enseigne des fois le dialogue conscient, qui m'avait passé à un moment où j'étais perdue. J'ai eu peur, j'ai été battue. Le vent a dispersé mes espoirs. La neige m'a gelée, le soleil m'a cuit. On dirait qu'ils se sont liés pour essayer de me faire arrêter de rire, arrêter d'aimer, arrêter de vivre. Mais peu m'importe, je suis juste là. Pouvons prendre un moment en silence.